ce n'était pas la première rencontre de Pierre avec le Seigneur Jésus. La première se trouve en Jean 1, et c'était là en bas dans la plaine vers Jéricho, vers le Jourdain, où Jean Baptiste prêchait. C'était là où André a amené son frère Pierre à Jésus, et en témoignant, « Matsanu et Hamashiach, nous avons trouvé le Messie ». C'était le témoignage d'André. Et ainsi Pierre a connu le Seigneur Jésus qui lui dit, « Tu porteras le nom de Pierre ». Mais ici, c'est plus tard. Donc, en Jean 1, nous avons l'époque de la conversion de Pierre. Et ici, nous avons l'époque de l'appel pour le service. Donc, ce n'est pas la même chose, n'est-ce pas? Et il y avait un temps entre deux de préparation. Et ici encore un moment important où Pierre a réalisé qui, pas seulement qui était le Seigneur, mais qui était Pierre. Et lorsqu'il a vraiment remarqué en moi, dans ma chair, il n'y a rien de bon, Romains 7, c'est cette connaissance exposée en Romains 7, alors le Seigneur peut dire avec ma force, tu vois, mettons devenir un pêcheur d'hommes. En Jean 21, je n'ai pas le temps pour entrer dans tous les détails, mais là on trouve encore une fois le trémaille, mais avec la méthode Véranda. Les détails, comme cette pêche est décrite, correspondent exactement à l'usage du trémaille, donc triple filet, mais parce qu'on savait que Saint-Pierre, c'est quand même un des poissons les plus intelligents dans le lac de Génézareth, il saute facilement lorsqu'il rencontre le filet. Alors on mettait en plus sur la surface un filet supplémentaire pour qu'il ne puisse pas sauter, et en plus, cela, on faisait normalement avec deux bateaux ensemble. Et à la fin, un pêcheur est sauté au milieu avec un amphiplestron, donc un filet pour jeter. Et tout cela, on trouve en Jean 21. Et en plus, n'est-ce pas, Pierre qui va dedans, donc deux barques, un pêcheur qui saute avec un filet à jeter. Et le texte dit aussi qu'ils étaient à environ 100 mètres du rivage. Le trémaille à la méthode Véranda était utilisé justement à une distance d'environ 100 mètres du rivage. Donc, d'où est-ce que les chrétiens, beaucoup plus tard, qui se basaient sur des mythes, ils auraient su de décrire les histoires des évangiles d'une telle façon précise? Voyez, dans le verset 8, nous avons cette indication « car il n'était pas loin de la terre, mais à environ 200 coudées », c'est-à-dire 90 mètres environ, traînant le filet du poisson. Et lorsqu'ils arrivent vers le Seigneur Jésus, le ressuscité, en Jean 21, nous lisons au verset 10, « Jésus leur dit, apportez quelques-uns des petits poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta et tira à terre le filet plein de 153 gros poissons. Et bien qu'il y en eût tant, le filet n'avait pas été déchiré. Dans ce texte, nous lisons de petits poissons. Dans la version d'Arabie, c'est poisson, mais il faut ajouter petits poissons puisque c'est opsarion en grec. Et c'est la forme diminutif. Et en plus, nous lisons de 153 gros poissons. Eh bien, le seul poisson, j'ai dit, qui nage en multitude, c'est Saint-Pierre. Donc, il est absolument clair que Pierre, il a, avec son filet à jeter, il a eu donc de Saint-Pierre, comme que les Arabes appellent Moucht et les Hébreux Amnoun. Mais qu'est-ce que ces petits poissons? Et nous continuons. Pour voir ça, il y a énormément de sardines dans le lac de Génézareth. Bien sûr, là, quelqu'un dirait, mais les sardines, c'est dans l'eau salée. Et C'est juste. Mais il y a aussi une espèce qui est dans les lacs, comme ici à Génézareth. Et voilà, ces sardines sont excessivement importantes. Et encore aujourd'hui, on gagne des centaines de tonnes par an de sardines dans le lac de Génézareth. Même qu'il est si petit. C'est absolument impressionnant. Eh bien, lorsque nous lisons l'histoire de la multiplication des pains en Jean 6, au verset 8, il est écrit « L'un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit « Il y a ici un petit garçon qui a 5 pains d'orge et 2 petits poissons. » Donc en grec, « opsarion ». Ce n'est pas seulement « poisson », mais « petit poisson ». Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Et voilà, le Seigneur Jésus a pris ses 5 pain de ce garçon et ses 2 sardines, et il a nourri avec ça 5000 hommes et les femmes et les enfants. C'est précieux, n'est-ce pas? Parce que cela nous montre, il y avait là une maman, oui, le texte ne le dit pas, théoriquement ça pourrait aussi être la tante, ou quelqu'un qui a soigné ce garçon. Et cette personne s'est dit, « Ah, le garçon veut aller écouter ce docteur, le Messie Jésus. Eh bien, il faut qu'il ait quelque chose à manger. » Et vous voyez, tous ces adultes, ils n'avaient rien à manger. Ils n'étaient pas préparés. Mais il y avait donc, je pense, une maman qui a donné ses 5 pains et 2 sardines à ce garçon. Et ça, le garçon pouvait apporter au Seigneur, et le Seigneur pouvait rendre ça en une grande bénédiction, pour finalement montrer que lui est le pain venant du ciel. N'est-ce pas, le Seigneur Jésus n'a jamais fait des miracles pour faire des miracles. Et tous les miracles que le Seigneur a accomplis ont apporté un message spirituel. Lorsqu'il a ouvert les yeux des aveugles, c'était pour montrer que Dieu doit ouvrir nos yeux, puisque nous sommes spirituellement tous aveugles. Lorsque le Seigneur a multiplié le pain, ce n'était pas pour nourrir les foules qui avaient assez à la maison, mais c'était pour montrer que lui est le pain venant du ciel. Et celui qui mange ce pain vivra en éternité. En Jean 6, dans la suite, il est même, dans le grec, il est dit, celui qui commet l'acte de manger vivra en éternité. Alors ça montre une vraie conversion amène à la vie éternelle. Voilà, on a une autre histoire dans les évangiles, comme le Seigneur Jésus a nourri les 4000, et là, il s'agissait de 7 pains et quelques petits poissons. Donc, nouveau, des sardines. Eh bien, ces sardines sont importantes. C'était, comme nous le savons, la nourriture de base au bord du lac de Génézareth. Donc, le pain et les sardines, bien sûr, salées, puisqu'on les gagnait pendant la saison, mais il fallait se nourrir pendant toute l'année. Et voilà, fréquemment, dans le lac de Génézareth, on pouvait avoir à côté des sardines aussi des pierres ou des serpents d'eau. Ça existe, et puis encore toujours, mais lorsque je vais avec des groupes, je ne le dis pas toujours, lorsqu'ils veulent aller nager. Mais ce n'est pas dangereux. Luc 11, verset 11. « Et quel père, dit le Seigneur Jésus, parmi vous, à qui son fils demandera un pain, lui donnera une pierre ? Ou encore, s'il demande un poisson, lui donnera au lieu d'un poisson un serpent. » 13. « Si donc vous, qui êtes méchants, vous savez donner des choses bonnes à vos enfants, combien plus le Père qui est du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ?» N'est-ce pas? Tout ce que le Seigneur là explique, c'est pris du monde des disciples. Mais comme ça, ils ont bien compris. Et lorsque nous apprenons un peu plus du détail de cette vie des disciples, on comprend encore mieux. N'est-ce pas? Nous avons déjà compris, mais on comprend encore mieux. D'ailleurs, avant Pentecôte, les croyants ont prié que Dieu donne le Saint-Esprit. Et encore en acte 1, on voit comme les disciples étaient ensemble pour prier. Et ensuite, Dieu a donné à Pentecôte, acte 2, le Saint-Esprit. Maintenant, il ne faut plus prier. Maintenant, il faut se convertir. Et selon Éphésiens 1, 13 et 14, celui qui est converti, vraiment, a cru l'Évangile, il est scellé par le Saint-Esprit. Eh bien, j'ai parlé des sardines salées. Il faut que j'explique qu'on a mis ces sardines salées dans des tours autour du lac de Génézareth. Et un endroit s'appelle justement Magdala, là près de cette vallée des pigeons que j'avais expliqué, vers le mont Arbel. Magdala, et Magdala veut dire en araméen, la même chose comme en hébreu, Migdol, tour. Donc le nom vient de ces tours pour conserver des sardines salées. En pleine saison, j'ai dit, il y a des tonnes de sardines mouvées pouvaient être pêchées en une nuit. Et voilà la connexion avec Marie de Magdala, qui venait de cet endroit où on avait ces tours de sardines. Marc 16, 9. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. Elle partit l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui, qui étaient dans le deuil et pleuraient. Marc 16, 19. Oui. Donc, Marc 16 explique aussi que Marie de Magdala était une femme qui autrefois était même possédée. Et le Seigneur l'a délivrée pour devenir un témoignage pour le Messie. Encore la scène, le filet traîné. En Matthieu 13, 47, dans la parabole concernant les mystères du royaume des cieux, le Seigneur dit, « Encore, le royaume des cieux est semblable à un filet. » Et il faut traduire littéralement « filet traîné », car ici, il y a le terme grec « sagene ». C'est le filet traîné. Et récipient ce qui est bon, puis on jette dehors ce qui est mauvais. Eh bien, ici, vous voyez la scène, le filet traîné. Mais au lac de Génézareth, à l'époque, on ne l'utilisait pas avec des bateaux, mais beaucoup d'hommes ensemble sont allés à pied, dedans, dans le lac, ensemble avec la Seine, et puis ensemble, ils ont tiré ça sur le rivage, comme il est décrit dans cette parabole. Mais voyez, dans cette parabole qui illustre l'Évangile, qui va être annoncé dans le monde entier, n'est-ce pas, le lac et la mer dans la Bible est souvent une image des nations, des peuplades. Eh bien, le filet de traînée de l'Évangile apporte les poissons. Mais il est question là des bons et des mauvais. Des bons qui sont mis dans des récipients et des mauvais qui sont jetés. Eh bien, qu'est-ce que c'est un poisson mauvais? Il faut lire les lois du kashrout, de la nourriture kachère, en Lévitique 11, verset 9. « Vous mangerez de ceci, d'entre tout ce qui est dans les eaux. Vous mangerez tout ce qui a des nageoires et des écailles, dans les eaux, dans les mers et dans les rivières. » Et tout ce qui n'a point de nageoires et d'écailles dans les mers et dans les rivières, de tout ce qui fourmille dans les eaux et de tout être vivant qui est dans les eaux, vous sera une chose abominable. Cela vous sera une chose abominable, vous ne mangerez pas de leur chair et vous aurez en abomination leur corps mort. Donc, on n'avait pas le droit, selon ces lois, de manger des grenouilles, etc., et seulement des poissons avec nageoires et écailles. Eh bien, il y a un poisson dans le lac de Génézareth qui n'a pas d'écailles. C'est silure, Clarias lacera. Longueur jusqu'à 1,25 m, poids jusqu'à 10 kg. Mais depuis l'Antiquité, les Juifs ne le mangent pas parce qu'il n'est pas cachère. Et lorsqu'on l'a dans le filet, on le jette. Il peut continuer à nager. Et voilà, lorsqu'on annonce l'Évangile, il y a toutes sortes d'hommes qui, d'hommes et femmes qui viennent, et on réalise qu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout nées de nouveau, qui ne sont pas vraiment converties. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les laisser nager. Il ne faut rien faire. N'est-ce pas? L'Église catholique, en pensant, on veut tuer des gens qui apportaient des hérésies, selon leur idée, ils ont tué des centaines de milliers de personnes et de croyants. Par exemple, seulement dans la persécution des Vaudois, ils ont tué un demi-million. Mais la parole dit, jetez au lac. Et les bancs, on met dans les récipients, c'est-à-dire il faut les rassembler dans des rassemblements locaux. Et les autres, il faut les laisser partir. N'est-ce pas, lorsque le Seigneur dit en verset 49, « Il en sera de même à l'achèvement du siècle, les anges sortiront, sépareront les méchants du milieu des justes et les jeteront dans la fournaise de feu, là seront les pleurs et les grincements de dents. » Eh bien, ici, ce n'est pas l'explication de la parabole, mais ici, c'est un enseignement ajouté, comme d'ailleurs déjà le frère Darby avait bien expliqué dans son commentaire sur ces paraboles. C'est très important de voir cette différence. Le Seigneur explique, donc, tout à la fin, lorsqu'il reviendra comme juge du monde, là, ce ne sont pas nous, mais ce sont les anges qui vont effectuer le jugement. Ils vont prendre les méchants, pas pour les jeter au lac, mais pour les jeter dans la fournaise de feu. 3. Tempête sur le lac. N'est-ce pas? Une particularité de la région du lac de Génézareth, c'est le redoutable charkiyeh, comme les Arabes appellent en arabe, le vent qui peut parfois descendre du Golan pour changer le paisible lac de Génézareth en une terrible et dangereuse tempête qui est toujours considérée comme très redoutable par les pêcheurs sur le lac de Génézareth. Marc 4, 35. Ce jour-là, le soir venu, il leur dit, « Passons à l'autre rive. » Après avoir renvoyé la foule, ils le prennent dans la barque comme il était. D'autres barques aussi étaient avec lui. Il se lève un grand tourbillon de vent. Et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Eh bien, une tempête qui est typique pour cette région, le Seigneur dort dans la barque, dans le bateau. Et voilà la peur des disciples. Eh bien, cette histoire nous est écrite pour illustrer le chemin de l'Église, le témoignage pour Dieu, l'Assemblée de Dieu, à travers les siècles. N'est-ce pas? Le Seigneur Jésus a laissé ses disciples, les croyants, sur la terre pour être un témoignage aux nations, le lac de Génézareth, parle des nations, pour passer à travers les tempêtes jusqu'au but final, le ciel, le rivage. Mais là, nous avons le Seigneur dans la barque. Eh bien, cela illustre, le Seigneur Jésus a promis en Matthieu 28 qu'il serait avec nous jusqu'à la fin de la consommation, jusqu'à la fin du siècle. Eh bien, pourquoi c'est possible que le Seigneur soit avec nous? Il est justement rentré au ciel. Oui, comme homme, il est rentré au ciel. Comme homme, il n'est plus sur la terre. Mais puisque le Fils de Dieu est le Dieu omniprésent, il pouvait dire, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Eh bien, le Seigneur est avec nous, dans le bateau. Mais parfois, nous avons l'impression, mais pourquoi il n'intervient pas? Il nous a oubliés. C'est comme s'il dormait pour nous. Eh bien, avec cette histoire, le Seigneur voulait illustrer une chose importante. Je continue au verset 38. Lui, à la poupe, dormait sur un oreiller. Ils le réveillent et lui disent « Maître, ne te soucies-tu pas que nous périssons ?» S'étant réveillé, il reprit le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et se fit un grand calme. Alors il leur dit « Pourquoi êtes-vous ainsi craintifs ? Comment n'avez-vous pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande peur et ils dirent entre eux « Qui donc est celui-ci pour que le vent même et la mer lui obéissent ?» Eh bien, le Seigneur est là et c'est une manque de foi, de penser « Nous allons tomber dans la perdition, dans les problèmes. » Puisque le Seigneur est là, c'est notre assurance. Et avec ça, les disciples ont appris qui est le Seigneur. N'est-ce pas? Il a repris le vent. Et il faut bien faire attention de réaliser, le Seigneur n'a pas dit « au nom de Dieu ». Il dit « au vent, tais-toi ». Cela montre que lui a l'autorité en soi-même, l'autorité divine. Et c'est pour ça cette question, qui donc est celui-ci pour que le vent même et la mer lui obéissent? Eh bien, le Seigneur a montré, il est homme et Dieu en une personne. Et c'est ce Seigneur Jésus qui est avec nous et qui passe avec nous par les tribulations. Eh bien, nous avons deux histoires différentes. Donc, le tourbillon de vent, Jésus dort. Matthieu 8, Marc 4, Luc 8. Mais nous avons une autre histoire aussi, tourbillon de vent, mais Jésus marche sur l'eau. Matthieu 14 et Jean 6. Eh bien, une différence importante, le Seigneur laisse les disciples aller seuls dans le bateau, finalement passé par la tempête. Et lui, le Seigneur, voulait monter sur une montagne pour prier. Et seulement plus tard, il est venu marchant sur l'eau pour sauver les disciples. Eh bien, c'est le revers de la médaille. N'est-ce pas? Là, le Seigneur n'est pas avec eux dans le bateau. Et le Seigneur Jésus, comme homme, il est vraiment au ciel. Il n'est pas ici. Nous sommes séparés. C'est pour ça que nous ne sommes pas encore mariés avec le Seigneur, selon Apocalypse 19, mais nous sommes fiancés avec le Seigneur. Donc, comme fiancés, on est séparés. On n'est pas encore ensemble. Et le Seigneur, un jour, va nous chercher. Mais le Seigneur, il est au ciel et il prie pour nous, comme il est allé prier sur la montagne. Et le jour va venir où il va directement revenir. Le Fils de Dieu, comme homme, va venir pour chercher son Église, pour nous sauver de toutes les tribulations de la vie. Nous finissons par quatre jugements de Dieu. En Matthieu 18, 3, nous lisons « En vérité, je vous le déclare, si vous ne vous convertissez pas et ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Celui qui s'abaissera comme ce petit-enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui reçoit un petit-enfant, tel que celui-ci en mon nom, me reçoit. » Mais celui qui est une occasion de chute pour un de ces petits qui croit en moi, il serait avantageux pour lui qu'on lui ait pendu au cou une meule d'âne, en grec mulos oinikos, et qu'il ait été noyé dans les profondeurs de la mer. N'est-ce pas? C'est pas souvent que nous trouvons des paroles de jugement si dures sur les lèvres du Seigneur dans les évangiles. Car à sa première venue, il n'est pas venu comme le juge du monde, mais comme le sauveur du monde. Mais ici, nous avons un message de jugement pour ceux qui fassent tomber des enfants dans le péché. Et voilà, c'est un passage très actuel aujourd'hui. Combien d'enfants ont été faits pécher par des adultes? Et c'est un grand problème dans notre société qui a cru de vouloir se délivrer dans le domaine de la sexualité des années 1960. Et maintenant, nous avons une catastrophe. Les gens ne savent plus ce qui est juste et ce qui est injuste. Et le Seigneur dit, alors, celui qui fait tomber un enfant, donc, pas seulement dans ce domaine-là, mais aussi là, alors, il serait avantageux pour lui qu'on lui ait pendu au cou une meule d'âne. Et vous voyez ici, sur l'image, une meule d'âne qu'on a trouvée à Capernaüm. Et si on met ça autour du cou, alors même des spécialistes pour nager ne montent plus. Je lis en Matthieu 11, verset 20. Alors il commença à adresser des reproches aux villes dans lesquelles avaient été faits la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazine! Malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, au Liban, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties sous le sac et la cendre. Mais je vous le dis, le sort de Tyr et de Sidon sera plus supportable que le vôtre au jour du jugement. Eh bien, ceux qui ont entendu plus sont plus responsables. C'est pour ça, tous ceux qui ont été élevés dans les familles chrétiennes et qui ne se convertissent pas, le jugement un jour va être beaucoup plus sévère que pour les autres. Nous avons une beaucoup plus grande responsabilité si on a eu ce privilège. Et voilà, le Seigneur nous apprend cela. Et ici, on apprend aussi quelque chose concernant l'omniscience de Dieu. N'est-ce pas, le Seigneur dit, si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps, etc. Donc, le Seigneur, Dieu, ne sait pas seulement tout ce qui va arriver. C'est pour ça, Dieu seul peut donner la vraie prophétie dans la Bible. Et c'est pour ça, la prophétie accomplie est une preuve fondamentale pour l'inspiration de la Bible. Parce que ce phénomène, on ne trouve pas dans les autres religions, ni dans l'islam, ni dans le bouddhisme, ni dans l'hindouisme, mais dans la Bible. Mais Dieu ne sait pas seulement ce qui va se passer, mais il sait aussi ce qui passerait si. N'est-ce pas? Alors, Dieu sait aussi ce qui serait arrivé si moi j'étais né au XVIe siècle, au sud de l'Inde, dans une famille hindoue, et voilà. Et toutes les combines possibles. Alors, ça nous donne une impression de l'omniscience de Dieu. Et voilà, Chorazine aujourd'hui, un tas de pierres. En Amos 9, 14 à 15, il est dit que dans les derniers jours, Dieu va ramener les Juifs au pays des ancêtres et ils vont rebâtir les villes de l'époque vétérotestamentaire. Et nous voyons comme ça s'est accompli. Mais Chorazine n'a plus jamais été colonisée par les Juifs. C'est là. Je vais avec des groupes de voyage à Chorazine pour juste montrer au moins ce tas de pierres. Malheur. Bethsaïda, aujourd'hui, c'est un marécage. Là, vers le lac de Génézareth. Un peu plus loin, il y a un kibboutz orthodoxe. Et voilà. Même les gens qui viennent visiter ne s'intéressent pas pour ce marécage. On a trouvé dans ce marécage des restes d'un village, mais jusqu'à présent, on n'a même pas fait les fouilles. Donc, et la rache. Et Matthieu 11, 23, « Et toi, Capernaüm, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusque dans l'Hadès, le séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. » Mais je vous le dis, le sort du pays de Sodome sera plus supportable que le tien au jour du jugement. Eh bien, le Fils de Dieu est descendu dans notre galaxie, n'est-ce pas? On pense dans l'univers observable, il y a à peu près 100 milliards de galaxies. a en moyenne 100 milliards d'étoiles. Donc 100 milliards fois 100 milliards, ça fait 10 puissance 22 étoiles, dans ce qu'on a vu jusqu'à présent avec Hubble. Et le Seigneur est venu dans notre galaxie, il est venu dans notre système solaire, il est venu sur notre petite planète bleue. Mais là, il est venu là, à la jointure des trois continents, Afrique, Europe, Asie. Mais là, il est descendu dans les profondeurs, il est allé habiter à Capernaüm, à moins 212 mètres. Donc Capernaüm qui a été élevé jusqu'au ciel, parce que ce village tout en bas est devenu le village du Fils de Dieu. Mais la masse ne l'a pas reçu. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, tu seras abaissé jusque dans l'Hadès. Capernaüm aujourd'hui, un tas de pierres. Il y a quelques moines qui habitent là-bas, mais ce n'est, on n'a plus colonisé dans, en notre temps Capernaüm comme une ville juive. Voilà, c'était notre tour vers le lac de Génézareth pour voir la crédibilité des évangiles sous l'angle des poissons, la pêche et la navigation. Et pour finir, je montre encore un mosaïque de Tabqa qui se trouve là dans une église. C'est très belle et très vieux d'ailleurs, mais fausse. Vous voyez, ça rappelle le miracle du Seigneur pour nourrir les 5000. Vous voyez les 5 pains et 2 poissons. Manifestement, ils ont laissé venir un artiste de plus loin pour faire ce mosaïque. Ils ne se connaissaient pas tellement dans les affaires du lac de Génézareth, car il n'y a aucun poisson dans le lac de Génézareth qui a des écailles sur le dos. Ouais, je veux dire, avec cet exemple, si quelqu'un qui n'était pas à la source des choses qui se sont passées dans les évangiles, il n'aurait jamais pu apporter un témoignage tellement crédible comme nous le trouvons dans les 4 évangiles de la Bible. On aurait tout le temps fait des erreurs parce qu'on ne sait pas ce qui est typique pour cette région. Et c'est pour ça, il est remarquable, un juif qui a habité pendant des décennies au lac de Génézareth depuis les années 1930, Mendel Noon, il s'est spécialisé dans les affaires de la pêche. Il a écrit un livre, The Sea of Galilee and its Fishermen in the New Testament. Vous voyez, à Ein Gef, c'est le kibbutz Ein Gef. Et en allemand, nous avons un livre encore plus large sur ce sujet. Et voilà, lui, comme juif, a été profondément étonné de la crédibilité des évangiles, car ils décrivent ce domaine de la pêche et de la navigation avec précision, jusque dans les moindres détails.